Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Les choses commencent toujours en musique dans Culture d'Islam. Et aujourd'hui, nous allons prendre la direction lointaine, la direction légendaire, la direction mythique du Sindh. C'est une province située au sud du Pakistan, sur les rives du fleuve Indus. Et nous allons écouter la voix envoûtante, la voix inspirée, la voix exaltante de Sohrab Fakir. Nous écoutons un chant qui est à la gloire de Shah Abdul Latif, un grand saint soufi du XVIIIe siècle, un saint du Sindh, cette province du sud du Pakistan. Le Shah Abdul Latif est mort en 1752. Et on sait que dans cette région du monde, il y a chez les musulmans un culte des saints qui est très fort. Donc là, on a un chant qui est un chant à la gloire du saint, mais qui est un chant aussi de demande d'intercession. Une demande d'intercession qui est considérée par d'autres courants de l'islam comme une idolâtrie, dans la mesure où ce serait un péché mortel de vouer un culte à quelqu'un d'autre que Dieu. Bon, eh bien, tant pis, nous ne boudons pas notre plaisir, nous écoutons Sohrab Fakir.
ਏੜਨ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਚੇ ਤੋਵਾ ਮੁਧ ਮਦਾਰ ਬਣਦੂ ਤਵੜ ਕੰਦਾ ਲਾਨਤ ਅਜਮ ਜੇ ਰਖਦਾਰ ਕਾਦੇ ਥੀ ਕੋਹਾਰ ਤੂੰ ਕਾਦੇ ਪਈ ਹਥੜਾ
ਆ
Vous êtes dans Culture d'Islam, c'est dimanche après-midi. Je reçois aujourd'hui Gérard Haddad. Gérard Haddad, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Culture d'Islam. Nous évoquions avant de commencer la mémoire d'Abdelwahab Meddeb, que vous avez,
connu. Qui a été mon ami, oui.
Qui a été votre ami.
J'ai même publié dans sa revue.
Sa revue Dédale.
Dédale, oui. Hein.
Ayons donc une pensée pour Abdelwahab. Je vous reçois aujourd'hui pour un livre qui est intitulé « Dans la main droite de Dieu ».« Dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme ». C'est publié aux éditions Premier Parallèle. Hein. Je crois que ce sont des livres qui seront disponibles hein, sur le site de Premier Parallèle et puis sur Internet, sur commande, bien sûr.
Et dans chez les bons libraires.
Et chez les bons libraires, bien entendu. Voilà. Mais il n'y a que des bons libraires, non ?
Bien sûr.
Hein, bien sûr. Alors, dans ce livre, vous avez voulu, Gérard Haddad, alors je précise quand même que vous êtes psychanalyste, que vous êtes essayiste, vous êtes l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels « Le jour où Lacan m'a adopté », c'était chez Grasset en 2002, « Le péché originel de la psychanalyse », au Seuil en 2007, « La lumière des astres éteints », chez Grasset en 2009.
Sur la question du génocide juif.
Voilà, que des très jolis titres.
Avant cela, j'ai été quand même agronome, donc j'ai...
Ah, pratique. Vous avez eu une vie avant d'écrire des livres.
J'écrivais aussi des livres en tant qu'agronome. Ouais. J'ai pendant 10 ans de ma vie, même 12, j'étais agronome. J'ai cultivé du riz au Sénégal. J'ai donc un contact avec les données concrètes de la vie et, disons, une certaine intimité avec la terre.
Si vous... Avec la terre, oui, voilà. Ce qui vous...
Et ça donne certaines tournures à mon écrit, dans la mesure où un ingénieur ne raconte pas d'histoire. Il faut qu'une œuvre... marche sur ses jambes, qu'elle soit structurée. Parce que souvent, les écrits analytiques sont un peu difficiles, disons, à suivre.
Oui, oui, oui.
L'ingénieur que je suis a toujours voulu construire ses livres.
Donc avant les profondeurs de l'âme, les profondeurs de la terre. Toujours les profondeurs, finalement.
Ben, vous savez, beaucoup d'écrivains aujourd'hui connus sont d'anciens agronomes. C'est le cas de Michel Houellebecq. C'était le cas du fondateur du Nouveau Roman. Et d'autres. Il y a plusieurs. La vocation littéraire va très bien avec l'attrait pour la terre, pour la nature, depuis le romantisme allemand.
Je suis en train de.
Dont les choses ne sont pas contradictoires.
Non,
un fellah, ça peut être un poète.
Un bon paysan qui regarde les étoiles.
Exact.
Alors, vous avez voulu, dans le livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui, je rappelle son titre, hein, « Dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme », vous avez voulu, je vous cite, « ausculter les structures mentales du fanatisme ». Alors pourquoi est-ce que je vous reçois ? Je vous reçois parce que parmi les formes...
Parce que j'ai écrit un bon livre d'être.
Tout à fait, exactement, c'est la première raison, un excellent livre, mais une raison encore plus précise, une raison en cache toujours une autre,
hein,
c'est que parmi ces formes du fanatisme que vous avez voulu analyser, vous en relevez quatre, on va en parler, il y a celle du fanatisme religieux. Et Dieu sait, enfin s'il existe, Dieu sait si aujourd'hui, dans la culture de l'islam, cette question du fanatisme se pose, puisque nous sommes tous les jours, hélas, les tristes spectateurs ou les spectateurs attristés, inquiets, voire bouleversés par l'expression de ce fanatisme religieux du côté de Daesh, du côté de la Syrie, etc. Et réfléchir, comme on le fait dans cette émission, sur la culture ou sur les cultures d'islam, c'est méditer aussi, c'est avoir le courage aussi de méditer sur le contraire de cette culture, le contraire, la contradiction de cette grande culture d'islam, sur ce qui la menace, sur ce qui la gangrène, sur ce qui révèle aussi peut-être quelque chose de sa maladie, comme le disait justement Abdelwahab, et donc sur le fanatisme, qui n'est pas qu'un mot, mais qui a, vous le montrez dans le livre, un certain nombre de structures mentales, qui renvoie à un certain nombre de structures mentales. Voilà ce que vous dites, d'abord, de façon générale, sur le fanatisme. Vous dites que le fanatisme d'essence totalitaire... Et ce comportement d'adhésion totale à une croyance dont le triomphe prime toute autre considération. Pour cette croyance, il devient légitime de mourir et surtout de tuer. Telle est sa caractéristique principale, la haine totale, meurtrière, génocidaire de toute personne qui n'adhère pas à votre foi. Seconde caractéristique, cette maladie de l'esprit est éminemment contagieuse. Elle subjugue rapidement des groupes, puis des foules, dont elle anesthésie la raison. Alors, donc Gérard Haddad, ce fanatisme d'essence totalitaire, vous le voyez à l'œuvre aujourd'hui, une nouvelle fois, hein, dirais-je. Et il n'y a pas quelque chose de désespérant de voir que, à nouveau, des cauchemars recommencent, face auxquels, comme vous le dites d'ailleurs à la même page, le combat au nom des valeurs humanistes s'est toujours et se révèle encore aujourd'hui avéré inefficace.
Moi, je voudrais dire en préliminaire un certain nombre de choses. Ce livre a été, je l'ai dédié à deux intellectuels tunisiens. C'est pas par hasard, c'est parce que ce livre est né, je suis tunisien, et la Tunisie est le pays qui fournit le plus grand nombre de combattants de l'État islamique, mais c'est aussi le pays où l'on s'est levé contre la dictature et où il y a énormément d'intellectuels. Récemment, j'ai participé à ce grand meeting qui s'est tenu au Palais des Congrès de Tunis. Il y avait plus de 2000 personnes pour protester contre le fanatisme, contre l'obscurantisme, contre l'intolérance. La Tunisie est un peu pour moi le laboratoire actuellement, un des laboratoires peut-être, mais enfin, dans le monde arabe peut-être le principal, où l'avenir de l'islam se joue. Est-ce que les courants éclairés, est-ce que les courants ouverts sur l'ensemble des autres familles humaines va triompher, ou est-ce que c'est la barbarie qui va... Donc, ce livre est né là-bas, à Tunis, après un colloque auquel j'ai été invité, dont le titre était précisément « Le fanatisme ». Donc, cette question, pour moi, c'est pas la première fois. Depuis que j'ai commencé à écrire, je m'occupe de ça. J'ai écrit il y a 25 ans un ouvrage où j'ai commencé déjà à me coltiner cette question du totalitarisme. Je voudrais dire un petit mot là-dessus, à savoir, ça je tire de ma référence en judaïsme qui est Maïmonide, Ibn Maïmoun, qui disait au fond, de tous les malheurs qui frappent les êtres humains, vous avez les cataclysmes, vous avez les tremblements de terre, les tsunamis, tout ce que vous voulez, les maladies, mais si vous mettez ça en comparaison avec ce que les malheurs que les hommes se font entre eux, eh ben finalement c'est peut-être mineur. Cet acharnement des êtres humains à s'entretuer, c'est vraiment la question, je dirais, philosophique, intellectuelle, qui devrait primer.
Et justement, vous allez chercher une cause de ce phénomène récurrent, de cette pulsion récurrente, dans ce que vous appelez les structures mentales, qui sont à l'origine du fanatisme. Vous employez aussi l'idée de loi fondamentale.
Oui, j'ai essayé dans mon livre, au fond, j'ai voulu écrire, peut-être, je vais être un peu prétentieux, mais le premier traité du fanatisme, parce que cette question qui est si importante, je ne sais pas s'il existe déjà un traité, une analyse globale des principaux courants, des principaux traits structuraux de cette maladie.
Dans le psychisme humain, parce qu'on a affaire...
Pas seulement, dans la société, il y a deux aspects.
Alors, oui, dans la société, mais quand même, la caractéristique de votre livre, par rapport à beaucoup d'analyses qu'on entend aujourd'hui, c'est que ce sont des analyses qui sont sociales, qui sont historiques, qui sont géopolitiques, etc. Vous avez voulu pénétrer avec votre capacité de psychanalyse dans les profondeurs du psychisme humain.
Absolument. Hein,
quels sont les ressorts dans la psyché humaine de ce fanatisme? Quel est le déclencheur ou quels sont les déclencheurs?
Je suis psychanalyste, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, dans l'œuvre de Freud, le psychisme humain ne se comprend que dans sa relation avec la société. Depuis Aristote, nous savons ça, l'homme est un animal social. Donc, on ne peut pas comprendre le psychisme individuel si on le dissocie de la société dans laquelle un sujet est inscrit. C'est pour ça que mon livre comprend deux parties. Dans la première, j'ai essayé d'examiner les grandes lois du groupe, les grandes lois collectives. Deuxième partie, comment est-ce que ces lois, ces discours totalitaires, comment ils embrayent, comment est-ce que des individus viennent s'accrocher à ça? Il y a donc une interface entre le groupe et la société, cette notion d'interface entre sujet et société, c'est, je dirais, l'axe principal de tout ce que j'ai écrit depuis mon livre « Manger le livre ». Donc, c'est cette exploration de l'interface. C'est pas très facile, donc il a fallu découper en deux parties.
Oui, il a fallu découper en deux parties. On parlera de la deuxième partie tout à l'heure, où il va être question de blessures narcissiques, etc. Hein.
Le narcissisme est le mécanisme principal du fanatique.
Voilà, c'est ce que vous dites. Hein. Mais on va en parler tout à l'heure, parce que avant d'aller du côté du narcissisme et d'une pathologie narcissique, ça fait des termes compliqués qu'il faudra expliquer à nos auditeurs, vous menez d'abord une réflexion très approfondie sur la notion de vérité.
Oui.
Et sur le rapport très difficile que l'homme entretient avec la vérité. Et vous proposez cette réflexion sur la vérité à travers une parabole que vous empruntez à Lessing. Hein ? Alors je vais me permettre de vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent autour de cette parabole. Donc Lessing a proposé la parabole suivante. Si Dieu lui déclarait qu'il tenait la vérité dans sa main droite et la quête de la vérité dans sa main gauche, c'est cette dernière qu'il choisirait. D'où le titre d'ailleurs de votre livre, hein, dans la main droite de Dieu. Alors dans la main droite de Dieu, il y a le choix de la vérité, et dans la main gauche, il y a le choix de la quête de la vérité. Sous-entendu, de la vérité qu'on ne possède pas, mais de la vérité vers laquelle on se met en chemin. Donc finalement, d'un côté, il y a la vérité sédentarisée, et de l'autre côté, la vérité nomade, ou de celui qui est nomade en direction de la vérité.
En direction, puisqu'on ne peut pas l'atteindre.
Et vous dites, mon maître Yeshayahu Leibovitz, ce savant et philosophe israélien qui combattit sa vie durant toutes les formes de fanatisme et d'injustice, a souligné l'importance de ce choix qu'il faisait sien. C'est aussi le mien. Quel choix ? Le choix de la main gauche. Peut-être faut-il considérer cette parabole comme la devise de toute personne qui rejette le fanatisme. Expliquez-nous.
Absolument. Finalement, les paraboles ont une richesse quand elles sont réussies. Le fanatique, lui, il dit, au fond, ce qu'il dit, c'est quand, si Dieu lui pose la question... Il dit, moi, c'est la main droite qui m'intéresse. Il croit que Dieu lui a donné ce que renferme sa main droite, c'est-à-dire la vérité absolue. D'abord, je soutiens que des vérités, il n'y en a qu'une. Mais j'ajoute tout de suite que cette vérité une, personne ne l'a. Les chemins qui mènent vers elle sont multiples. Mmh. Et la vérité, c'est comme une ligne d'horizon. Toute votre vie, Leibovitz disait la chose suivante. C'est à lui, d'ailleurs, que j'ai emprunté cette parabole de Lessing. C'est lui qui l'a citée. Il disait que ce qui donne sens à la vie d'un homme, c'est ce chemin vers la vérité, cette quête permanente jusqu'à son dernier jour. Il est là, vous savez, dans le judaïsme, le mot vérité, c'est le synonyme du nom de Dieu. Mmh. C'est un des noms de Dieu, vérité. Donc, qui possède Dieu, franchement ?
Dans l'islam aussi, hein, c'est un des 99 noms, Al-Haq, hein, qui est le nom de la vérité.
Voilà, c'est un des noms de la vérité.
Hein. Donc, et donc le fanatisme...
Vous voyez combien de points communs il y a entre le judaïsme...
On en a déjà trouvé au moins un.
Hein, là. Non, il y en a beaucoup plus. J'ai souvent signalé l'osmose profonde qu'il y a, parce que souvent on dit que l'islam a pris beaucoup du judaïsme. Mmh. Mais j'ai souvent signalé dans des conférences, etc., combien le judaïsme, en particulier Maïmonide, a emprunté dans les théologies musulmanes.
Alors, vous dites, il y a celui qui est en quête, qui considère la vérité comme une quête.
Comme vous et moi.
Oui, on est en train de le faire, là,
Faire, absolument. Hein,
dialoguer, c'est cheminer vers la vérité ensemble, en se faisant mutuellement la courte échelle. Hein, en remplissant ce que Socrate appelait les conditions du dialogue. La bienveillance, la compétence et la franchise. C'est pas beau, ça,
hein ? Magnifique.
Merci, Socrate. Celui qui rejette le fanatisme, ou en tout cas celui qui n'est pas fanatique, c'est celui qui accepte que son rapport à la vérité soit celui d'un chemin. Oui. Par contre, le fanatique, lui, vous dites, il rejette le doute. Il a une peur horrifique du doute. Il ne veut surtout pas douter, il ne veut surtout pas cheminer, il veut être déjà arrivé, et il est persuadé de détenir la vérité.
Il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé. Dans ce que vous avez dit, ça m'a donné une idée, vous savez. Pour ne pas être fanatique, vous savez, la qualité principale qu'il faut avoir, c'est l'humilité. Il faut être humble. Et ça m'a fait penser à une parole prophétique d'un prophète qui s'appelait Michée, qui disait, qu'est-ce que te demande Dieu ? Il ne te demande pas grand-chose. Il te demande de pratiquer la justice, d'aimer la tolérance et d'être humble dans ton chemin. Cette humilité, que dans notre tradition juive, nous disons, l'homme le plus humble qui ait jamais existé, c'était Moïse, Ish Hanav, il était humble. Cette humilité est essentielle pour le travail intellectuel. Toute personne qui n'est pas humble dans son rapport à cette quête, il est cuit, il est foutu pour le travail intellectuel.
Et alors, ça veut dire quoi, être humble. Inversement, à contrario, ça veut dire qu'il y a un orgueil.
Il y a un orgueil monstrueux, hein. Monstrueux, une mégalomanie. Quoi, je tiens la vérité. Ya Rabbi, comment tu tiens la vérité ? Tu tiens la vérité.
Mais alors, ce qui fascine le fanatique dans ces conditions, c'est la jouissance que procure cet orgueil.
Il y a une jouissance multiple. Oui. Et d'abord, il est élu. Il a la vérité, vous vous rendez compte. Ensuite, vous savez, ma structure mentale, à moi, je peux vous faire une confidence, mais ne le dites pas à la radio.
Non, mais personne ne nous écoute, je vous rassure.
D'accord. J'espère que quand même que non.
Si, je fais coucou à tous les auditeurs, bien sûr.
Si j'étais un jour me faire analyser, parce que quand on se fait analyser, c'est parce qu'on a des problèmes soi-même, c'est pas par curiosité. C'était le problème de la névrose obsessionnelle. Qu'est-ce que c'est que la névrose obsessionnelle ? C'est la torture Il faut savoir qu'elle peut atteindre des niveaux extrêmement importants et douloureux. La torture du doute. La torture du doute, la maladie du doute, c'est la névrose obsessionnelle. Mmh. Vous vous rendez, quand ce doute disparaît, vous avez un soulagement mental, un confort merveilleux. Quand vous arrivez à la certitude, et Dieu merci, nous y arrivons de temps en temps. Eh bien, les moments où nous arrivons à la certitude, c'est ce qu'on appelle en arabe raha. Mmh. On est bien, on est bien.
Mais ce sont des moments de repos.
Ce sont des moments de repos.
Entre lesquels il faut reprendre la route.
C'est ça. C'est des moments de, voilà, des oasis dans le désert.
Des haltes. Des étapes.
Hein. Et il faut continuer. Tandis que lui, le fanatique, il y est, il y reste et il ne bouge pas.
Vous dites que le fanatisme, précisément, permet de surmonter cette souffrance du doute. Donc, en fait, là, il y a quelque chose de pathologique au sens où le rapport au doute n'est pas possible pour le fanatique. C'est quelque chose qui est littéralement psychiquement insupportable ou intolérable.
Et, oui, et pourquoi il dit qu'il a surmonté.
Mais à la suite, alors justement, à la suite de quelle fragilisation du psychisme est-ce que le rapport au doute peut devenir aussi insupportable?
Bon, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on appelle la structure obsessionnelle. Et cette structure, je voudrais quand même nous situer dans l'histoire de la pensée. Je pense que cette torture du doute, et c'est pour cela qu'au fond, ces mouvements extrémistes, ces mouvements fanatiques sont une espèce de réaction à la modernité. Mmh. Au fond, la modernité, elle est le produit d'un penseur qui a marqué l'histoire des idées, qui est Descartes. Mmh. Descartes, c'était l'homme du doute absolu. Je doute de tout, quoi. La science moderne est née de cette démarche cartésienne de mettre en doute tout ce qui nous apparaît comme évident. Mmh. Et le fameux cogito
voilà, ergo sum. Le doute cartésien, méthodique, universel et radical, comme on dit.
Il a injecté dans l'espèce, dans l'Occident, une maladie. Il a injecté ce virus, cette maladie du doute, qui mine effectivement nos sociétés. Si l'Occident est en crise, c'est parce qu'il doute. Il est dans cette espèce de torture du doute. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accueillir les migrants? Est-ce qu'il ne faut pas les accueillir? Tout le monde se... La démocratie...
Voilà, qui s'exprime aussi dans le relativisme.
Dans le relativisme.
Les valeurs dont souffre la société.
Voilà, les valeurs, la vérité. On entend dire des bêtises du genre, il y a beaucoup de vérité. Voilà. S'il y a beaucoup de vérité, il n'y a pas de vérité.
Il n'y en a pas. Bon, donc on a à la fois un effet miroir et un effet boomerang, d'une certaine façon.
Donc,
c'est... en face de ce doute et de ce relativisme, il y a cette espèce de crispation du rapport à la vérité.
Il y a cette espèce d'épanouissement, cette espèce de jouissance. C'est un orgasme. C'est ce que j'ai appelé, à un moment donné, la conversion. Vous voyez un peu, nous avons quand même pas mal de profils de fanatiques. Aujourd'hui, on a eu même en France, avec les affaires de Harakiri et tout cela, nous connaissons ces frères Kouachi. Et c'est un profil qu'on retrouve chez tous les terroristes qu'on a eu en France. Ce sont des gens qui n'ont pas eu de parents, ce sont des structures, des gens qui étaient des psychopathes, un peu beaucoup délinquants, etc. Et sans doute souffraient-ils de cette... Et puis un beau jour, on leur a promis, un discours est venu les saisir et les a sortis de cette souffrance psychique qu'ils avaient. Et ils leur ont promis le bonheur, on leur a promis le paradis. C'est quoi le paradis qu'on leur a promis? C'est au fond la fin du doute. Mm-hmm. Il y a quand même ça. Les fameuses 40 vierges, avant d'avoir les 40, ils ont eu la paix, ils ont atteint une certitude qui a mis un terme à leur torture psychique.
Alors là, on a foncé directement sur les ressorts psychologiques. Dans la subjectivité, mais on a foncé tous les deux, c'est pas de votre
d'accord.
faute. Au départ, vous analysez ce que vous avez appelé les lois fondamentales du fanatisme à travers quatre formes. Le nationalisme, quatre formes historiques. Le nationalisme, le racisme, l'idéologie totalitaire.
Idéologies en général.
Oui, mais vous identifiez surtout... l'idéologie totalitaire du XXe siècle, et puis la quatrième sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête aujourd'hui, parce que c'est quand même celle qui nous préoccupe du côté, notamment du côté musulman, même si, il faut toujours le rappeler, l'islam, évidemment, n'a pas le triste monopole du fanatisme, bien sûr, il y a des fanatismes aujourd'hui, mais on voit ce fanatisme musulman, vous dites qu'il en est aujourd'hui l'exemple le plus spectaculaire, le plus bruyant, et vous dites... que le fanatisme religieux, donc il s'exprime du côté de l'islam ou ailleurs, plonge ses racines dans un sentiment respectable, le sentiment religieux. À travers lui, l'homme écrasé par sa petitesse dans l'univers et par l'angoisse de sa propre fin inévitable, suppose une cause à cet univers et un sens à sa vie. Il y trouve un remède à sa déréliction, la religion est la dernière richesse spirituelle des pauvres gens. Alors comment est-ce qu'on passe de ce sentiment religieux qui est... donc, selon vous, une consolation par rapport à ce sentiment de n'être rien, de n'être qu'insignifiant dans l'immensité de l'univers, au fanatisme, c'est-à-dire à cette radicalité d'un refus du doute et à cette conviction de détenir la vérité.
Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de fanatisme, on dit que c'est la religion. La religion est la cause de tous les fanatismes.
Oui, c'est ça, en réalité, effectivement, qui est en jeu dans ce que vous dites là.
Eh bien, moi, je dis que non.
Tout à fait.
Je dis que non. Si vous prenez le XXe siècle, les deux grands fanatismes qui ont causé des millions, des dizaines de millions de morts étaient athées. Le nazisme était athée, le communisme était athée. Donc la religion n'a pas causé tellement, probablement a causé moins de morts que les fanatismes dits laïcs. La laïcité, l'athéisme peut produire lui aussi des catastrophes.
C'est-à-dire qu'en réalité, à un moment donné, vous parlez de l'hubris, hein, c'est-à-dire voilà. De la démesure. À un moment donné, une idéologie sombre dans l'excès, dans la démesure, dans l'ivresse d'elle-même. Hein, dans l'ivresse de sa puissance et de sa vérité, et ce n'est pas le propre des idéologies religieuses.
C'est pas le propre des religions. La religion a sa noblesse. Mmh. Elle a produit des hommes exceptionnels. Moi, j'ai rencontré l'un d'entre eux. C'était une rencontre merveilleuse, celle de Leibowitz, qui était un homme d'une très grande piété, mais plus anti-fanatique que lui, plus anti-nationaliste que lui, je n'existais pas. Plus ouvert à l'ensemble des cultures du monde que lui, je n'en ai pas connu d'autres, y compris Lacan. Alors, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Comment se fait-il qu'une idée, qu'elle soit religieuse ou autre, devient fanatique?
Oui.
C'est une des autres lois que j'ai essayé de mettre en évidence. Ça rejoint l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, Les folies millénaristes, à savoir le millénarisme, le messianisme. À savoir, le temps de la fin est arrivé. Le temps de la fin est arrivé. Ce temps de la fin sera un temps merveilleux. Ce sera un temps où il y aura une harmonie merveilleuse, où il y aura plus de tensions sociales, il y aura la prospérité, que sais-je, le bonheur.
Donc une eschatologie de la concorde universelle finale.
C'est curieux, d'ailleurs, cette idée est en train d'entrer dans la pensée de... J'écoutais hier par hasard une émission, il y a quelques jours, une émission sur France 5, pour tout dire. C'était un policier du GIGN qui disait, mais les terroristes actuellement sont des messianistes. Ah, j'ai dit, tiens, il a dû lire. Les terroristes sont des messianistes. Il pense que le monde espéré, ce rêve d'un monde parfait est à portée de main, à condition d'exterminer tous ceux qui font obstacle à cet avènement.
Oui, c'est là que le bât blesse.
C'est quand il y a conjonction. Et puis aussi, quand le religieux, moi, toujours pour citer les mêmes références, quand vous êtes dans une trop grande exaltation religieuse, vous allez tomber... la tête la première, dans le fanatisme et dans l'idolâtrie. Le fanatique, il faut le lui dire à ce brave fanatique, c'est un idolâtre. Ce n'est pas un super croyant, comme on veut nous le faire. C'est un idolâtre. Chaque fois que le sentiment religieux vous envahit trop, vous devenez un idolâtre. Vous supprimez cette barrière infranchissable qu'il y a entre le divin et l'humain.
Oui, alors vous dites qu'il y a dans cette foi messianique un ferment possible du fanatisme parce que il s'agit presque automatiquement de vouloir hâter la venue de ce paradis sur Terre.
À portée de main.
Voilà, le mettre à portée de la main, en éliminant donc tout ce qui fait obstacle à sa venue ou au fait qu'il survienne. Premier élément, premier ferment du fanatisme. Vous en décelez un autre, et là vous distinguez d'un côté le christianisme et l'islam, et de l'autre côté le judaïsme, c'est ce que vous appelez la passion de l'universel.
La passion universelle.
Hein, la passion de l'universel, c'est-à-dire que vous dites... que le christianisme et l'islam, étant des religions universalistes, ont eu vocation à s'étendre, ont eu vocation à devenir conquérantes, et concurrentes d'ailleurs, et donc inévitablement elles ont essayé de tout renverser sur leur passage. D'où le fanatisme, c'est-à-dire la prétention, à cause de cette passion de l'universel, de vouloir supplanter toutes les autres à partir de la conviction de sa propre supériorité. Et vous dites, c'est un petit peu curieux, que le judaïsme, lui... serait peut-être exempt de ce risque, ou presque immunisé contre ce risque de fanatisme, parce qu'il n'a pas la passion de l'universel ?
Non, il est au contraire la passion du particulier. Il y a des... Alors attention, il faut tout de suite préciser.
Allez, précisons.
Il y a des fanatiques juifs.
Oui, vous le précisez dans le bouquin d'ailleurs. Hein.
Je le souligne parce que mon combat politique, numéro un, c'est mon combat, à la suite de Leibowitz, c'est le combat contre le fanatisme des Juifs. Le fanatisme, c'est un fanatisme nationaliste et c'est un fanatisme raciste.
C'est pas parce Donc qu'il peut y avoir un fanatisme du particulier.
Non, ça, il n'y a pas, c'est pas du tout du particulier là. Là, c'est un fanatisme, le nationalisme, c'est pas la religion. C'est pas parce que les gens ont
mais
une
vous,
kippa.
Mais vous dites, oui, mais vous dites aussi qu'il y a des juifs ultra-orthodoxes. Les juifs expriment un fanatisme dû, justement, de cette particularité juive qui est fondée, j'imagine, hein, comme du côté des fanatiques musulmans ou chrétiens, sur la conviction d'une supériorité de ses propres textes, de sa propre tradition, etc.
Je ne suis pas un ultra-orthodoxe, mais je vais prendre quand même leur défense. Les ultra-orthodoxes juifs ont souvent été contre l'État d'Israël. Quand Arafat était malade à Paris, il y a une délégation de gens avec des pieds habillés avec leur redingote noire et leur chapeau noir. Au début du sionisme, ce sont les ultra-religieux qui se sont opposés au sionisme. Et Leibovitz, qui était un ultra-religieux, s'est opposé à la politique injuste, a été le grand défenseur de la cause palestinienne en Israël. Donc il faut dissocier les choses. Le judaïsme se pose comme une particularité. Et c'est la parole donc que je vous rapportais tout à l'heure de Micha, de Miché, comme quoi, au fond. Un jour, il y a eu une personnalité française, pas très connue, mais qui a joué un rôle dans ma vie, qui s'appelait Aimé Palière. Aimé Palière était un chrétien, un séminariste, qui a voulu se convertir au judaïsme. Il a été voir le rabbin de l'époque, un des éminents kabbalistes, moi je suis pas kabbaliste, qui s'appelait Ben Amosé, qui était à Livourne. Il a été le voir pour se convertir. Il lui a dit, mais pourquoi vous allez vous convertir? Mais pourquoi? Vous faites le bien, vous êtes un homme juste, ça suffit! Mais c'est une violence, vous savez, la conversion est d'une violence incroyable. Et si vous le convertissez par la violence, c'est un meurtre. Sure. Donc, on n'a pas besoin d'être dans une religion donnée pour être un type bien.
Non, non, ça c'est sûr.
Donc le judaïsme se pose oui.
Là où vous dites que, effectivement, la différence du judaïsme, c'est qu'il n'est pas universaliste.
La religion juive, hein, je précise.
La religion juive, bien sûr. Oui. Donc qu'elle n'est pas universaliste et qu'à partir de là, elle est, je dirais, moins exposée au risque du fanatisme.
Bon,
je trouve que l'argument est relatif au sens où, d'ailleurs, vous citez Freud qui dit dans l'homme Moïse, avec la croyance en un seul Dieu, naquit aussi, chose inévitable, l'intolérance religieuse demeurée jusque-là et restée longtemps encore après étrangère à l'Antiquité. C'est-à-dire, est-ce que le ver n'est pas dans le fruit, je dirais, et là, du coup, ça concerne les trois monothéismes, c'est-à-dire dans le fait même d'affirmer qu'il y a un seul Dieu, hein, est-ce qu'il n'y a pas le ferment, justement, de ce que vous désignez comme la source du fanatisme, à savoir la prétention, la conviction et le besoin psychique de penser qu'on détient la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié là au monothéisme? Ce qui ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de fanatisme du côté des polythéismes, et on sait très bien, on voit par exemple du côté de l'hindouisme régulièrement des poussées fanatiques assez impressionnantes et désastreuses, mais qu'il n'y a pas fondamentalement de raison de penser qu'à l'intérieur du monothéisme, eh bien, il y aurait une religion qui serait plus à l'abri qu'une autre.
Non, le judaïsme ne veut pas s'imposer aux autres. Le judaïsme pose la chose suivante, il y a un tronc commun à toute l'humanité, c'est que nous sommes tous des êtres parlants, oui. Nous avons un minimum de lois à respecter, c'est-à-dire l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, point final. Donc, de ce côté-là, le fanatique religieux, c'est celui qui veut imposer sa religion aux autres.
Oui.
Ça, on peut pas dire le judaïsme. Et si vous avez un jour l'envie un peu folle de vous convertir au judaïsme, je vous le souhaite pas. Je vous encourage pas dans
non,
ça.
Non, mais là, je vous rassure, pour l'instant, ça va.
Oui, je pense qu'on peut être rassurés tous les deux.
Non, non.
Vous verrez les ennuis que vous aurez. Vous verrez que le rabbinat ne voudra pas de vous. Ils vont vous mettre des obstacles infinis. Donc, c'est pas.
Bon, là, vous me décidez complètement, c'est non. Je vais pas
c'est
essayer
non.
de
D'accord.
me convertir.
D'accord. Par contre, vraiment. Si je voudrais devenir musulman, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Je vais
c'est
dire la shahada.
Devant deux
terminé.
Témoins.
Devant deux témoins. Et puis, c'est gagné. Donc, vous voyez, c'est ça la différence. La volonté de. Dans l'islam, il y a cette idée qu'un jour, l'humanité entière sera musulmane. Mais pourquoi faire ? On va supprimer la richesse des diversités, des particularités que Dieu a mis dans ce monde. Vous avez le mythe qui a été incarné dans la Bible par l'histoire de la tour de Babel. Quand l'humanité à l'époque voulait, le texte biblique des choses suivantes, on voulait que tout le monde parle la même langue et ait les mêmes idées. Mais c'est la catastrophe. Et Dieu est arrivé, il leur a dit, attention, je vais vous bénir d'une certaine façon, je vais vous disperser, je vais brouiller vos langues et brouiller vos cultures. Ça va être beaucoup plus riche. Vous allez pouvoir échanger entre vous. Si tout le monde a la même idée, la même religion, c'est alors, sympathique, mais c'est...
Oui, sauf que, est-ce que là, il n'y a pas une confusion entre l'universel et l'uniforme ? Est-ce que l'universalité, c'est forcément l'uniformité ? Parce que, décidément, vous n'aimez pas hein, la notion d'universel. Ça, vous,
non, j'ai découvert ça en écrivant ce livre.
Ouais. Ah bon ?
Parce que vous savez, quand vous écrivez, c'est vous qui... Ouais. Vous
Parce que dans l'universel, il peut y avoir le partage d'une valeur fondamentale qui va se trouver exprimée de façon différente dans les différentes sagesses de l'humanité.
Non, il faut
moi, souvent, je prends l'exemple.
Cette passion universelle mérite d'être...
Je vais vous donner un exemple. Mais là aussi, ça renvoie à un autre terme qui vous semble très suspect. C'est la notion de fraternité.
Oui. Non, pas. J'ai pas dit qu'il est suspect. J'ai dit qu'il est complexe.
Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Mais
nous en parlerons.
Eh ben oui, mais elle est complexe, comme la notion d'universel. C'est-à-dire que, par exemple, il y a dans on appelle ça souvent la règle d'or humaniste. Il y a dans tout un ensemble de traditions, les monothéismes tout d'abord, mais d'autres, ce commandement de la fraternité, de se conduire avec fraternité envers l'autre être humain. Ben, il me semble qu'il y a là un universel qui est un universel non seulement respectable ou possible et respectable, mais aimable. Mais qui va ensuite se trouver décliné. Vous allez le trouver dans la religion juive, par exemple dans des récits hassidiques. Vous allez le trouver probablement.
C'est pas ma tasse de thé.
Ça vous a pas emballé.
Non, bon, c'est pas mon.
Chacun ses sources d'inspiration spirituelle et intellectuelle.
Moi, je suis mal poli. Dans la Bible, il n'est pas dit tu aimeras ton frère. Il est dit tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais qui est le prochain alors?
C'est vous. C'est un autre être humain. Ah. C'est pas nécessairement votre frère.
On se souvient de Pierre Desproges qui disait tant pis, j'aimerai le prochain. Donc, bon, alors il y a un autre thème là très important dans votre livre sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un petit peu.
Pour l'histoire de l'université, je me permettrais d'ajouter, ce n'est pas propre aux religions ça. Vous avez bien des malheurs aujourd'hui de l'histoire récente. C'est quoi? C'est qu'on a voulu universaliser l'idée de démocratie. On a envahi des pays, on les a détruits au nom de cet universel que la démocratie, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de bon. Donc la question de l'universel n'est pas propre aux religions, n'est pas propre aux idéologies. Elle est propre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de phobie du particulier contre laquelle les grands ethnologues, les Strauss en particulier, se sont élevés?
Oui.
Et là-dessus, j'ai des idées plus tard à développer. Quelle est la raison pour laquelle il y a cette passion pour l'universel et cette gêne devant le particulier?
Oui, mais ce qui vous gêne manifestement dans l'universel, c'est pas l'universel en soi, c'est un universel qui s'impose en prétendant s'exprimer partout d'une façon qui est unique, qui est uniforme. Parce que, évidemment, il y a des peuples auxquels on a imposé la démocratie, oui. Mais il y a, et on l'a vu beaucoup à partir des indépendances, hein, après les époques coloniales, il y a des peuples qui se sont appropriés la démocratie en lui donnant une signification qui était une signification propre. On pense par exemple à ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, l'Inde.
Oui.
Bah, c'est pas quelque chose qui a été imposé par les Anglais ou qui n'est que la réplique d'un modèle occidental. Et donc, à partir de là, on peut penser une notion d'universel de façon complexe, c'est-à-dire comme quelque chose qui, à la fois, repose sur des principes qui sont partagés, mais qui vont trouver, dans les bassins de culture, de civilisation, etc., des déclinaisons qui vont laisser le droit à la différence de s'exprimer.
Mais l'Inde est d'abord une merveilleuse exception, très peu imitée. Oui. Et c'est un choix qui est parti d'eux.
Oui, très peu imité, j'en profite pour dire, très peu imité, notamment dans le monde arabo-musulman. Vous parliez tout à l'heure de l'exception que constitue la Tunisie. Alors, il y a un autre thème sur lequel je voudrais vraiment qu'on s'arrête. Vous citez d'ailleurs Maïmonide, Maïmonide qui disait « De Dieu, je ne peux rien savoir ».
Oui.
Et donc là aussi, il y a quelque chose qui se joue dans le fanatisme, c'est-à-dire que le fanatique, c'est celui qui croit savoir de Dieu. Hein, c'est-à-dire qui croit que, eh bien, il a la parole de Dieu et que, à partir de là, il est le porte-parole de Dieu. Il croit savoir qui est Dieu et ce que veut Dieu.
Et il a une prise donc sur Dieu.
Voilà, il a une prise sur Dieu.
C'est en ça qu'il est idolâtre.
Voilà, c'est en cela qu'il est idolâtre. Alors, vous présentez là encore une fois les trois monothéismes et le rapport que les trois monothéismes entretiennent avec Dieu d'une façon qui est un peu différenciée. Et vous dites que dans le judaïsme, dans la religion juive, il y a ce génie d'un dieu qui échappe à la prise.
Non, ça c'est dans certains courants de judaïsme.
Alors lesquels?
Le courant maïmonidien. Cette notion que vous avez rappelée, c'est ce que vous savez très bien, que ça appartient à un grand courant théologique qui remonte bien avant le judaïsme, dans la philosophie grecque, ce qu'on appelle la théologie négative.
Voilà.
La théologie négative n'est pas spécifiquement juive.
Ou apophatique.
Apophatique. Maïmonide l'a reprise à son compte et il a voulu la greffer dans le judaïsme. Mais il n'est pas forcément suivi. Ce qui domine le judaïsme aujourd'hui, c'est plutôt les courants kabbalistiques qui croient, eux, avoir un savoir sur Dieu. La psychanalyse est partie d'un point que Freud a appelé « renoncer au savoir absolu », ce qu'il a appelé le refoulement primaire. La théologie négative, c'est ça, c'est de renoncer. Lacan était un grand adepte, il a fait tous les éloges sur cette théologie apophatique, cette théologie négative. Partir de ce point qu'il y a des choses que je ne pourrai jamais savoir. Cette espèce de modestie, encore nous revenons sur cette humilité de l'intelligence. J'ai des limites à mon esprit. C'est parce que j'ai des limites que mon esprit peut devenir puissant, d'ailleurs. La puissance de la pensée provient du fait de l'admettre sa limite. La science moderne est partie de cela. Donc, ces kabbalistes, ces fanatiques qui croient posséder un savoir sur la divinité, eh ben, ce sont, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas ma tasse de thé, en tout cas.
Non, non. Alors,
ni la vôtre.
Ce dont je voudrais, ce dont je voudrais témoigner, même si, bon, il est difficile de résister à la fascination des certitudes, des convictions.
Hein, difficile, bon, c'est fascinant.
Voilà. Ce dont je voudrais témoigner ici, c'est que du côté de l'islam, il y a aussi, dès le Coran d'ailleurs, hein, cette conscience que Dieu échappe, et que Dieu échappe à la prise de l'être humain. Je voudrais citer deux versets qu'on ne mobilise pas souvent, mais que j'aime beaucoup. Ce sont deux versets qu'on trouve dans la sourate 6, hein, c'est le verset 100 et le verset 103. Alors le premier, je le dis en arabe, et puis je le dis en français, « Subhanahu wa ta'ala amma yasifun », ce qui veut dire « gloire à Dieu hein, » et « gloire à celui, le Très-Haut, qui est au-delà ou qui est au-dessus, amma yasifun, de ce qu'ils imaginent ou de ce qu'ils peuvent concevoir ». Donc là, il y a vraiment cette transcendance de Dieu qui est affirmée par rapport à l'intelligence humaine. S'il y avait une véritable culture spirituelle en islam, eh bien, et elle existe hein, dans certains milieux, heureusement, dans certaines familles, dans certaines éducations, eh bien, il y aurait là un remède, me semble-t-il, pas une panacée, hein, mais un remède contre le fanatisme, parce qu'il y aurait cette conscience que Dieu est, même, je dirais, par excellence, ce qui toujours échappe. Hein,
voilà.
Il est le transcendant. Voilà.
Et puis, même il y a transcendant second... est un mot faible.
Même transcendant est un mot faible. Il y a un second verset, pardon, mais je l'aime encore plus que le premier, donc je vous le cite, on est toujours dans la sourate 6. « La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar ». C'est-à-dire, les regards absar, les regards ne l'atteignent pas, mais lui, huwa, atteint les regards. Voilà. Dieu atteint les regards, mais les regards ne l'atteignent pas. Et ce qui est en plus intéressant, ce qui est souvent souligné d'ailleurs par les soufis dans ce verset, c'est que Dieu est désigné non pas à travers un nom qui enfermerait sa définition et qui nous permettrait donc de dire « ça y est, je sais qui est Dieu parce que je sais le définir », il est désigné comme « Hua », lui. Hein. Donc le doigt montre une direction, qui est la direction de l'horizon, qui est la direction de la transcendance.
C'est un peu comme le tétragramme. D'ailleurs, à propos de Maïmonide, Maïmonide a reçu une grosse influence arabe, musulmane plutôt qu'arabe, musulmane. Il disait « je n'ai eu de maître en philosophie que musulman ». Et en particulier, sa référence la plus importante, c'était Al-Farabi, le grand commentateur. Probablement aussi Ibn Sina. Probablement, il n'a pas connu Averroès, qu'il a défendu à la fin de sa vie, parce qu'il a découvert tardivement l'œuvre du grand Ibn Rushd. Donc, il y a eu une osmose très très grande. D'ailleurs, le fils, vous savez qu'il y a une grande polémique dans le judaïsme. Après Maïmonide, on a voulu brûler son œuvre. C'est des juifs qui ont voulu brûler son œuvre. Et des juifs qui vivaient en milieu chrétien. Et le fils de Maïmonide, qui était un grand monsieur, il a dit « Mon père, c'est parce qu'il a vécu dans un milieu musulman que son monothéisme était si... Alors que vous, qui êtes contre la pensée de mon père, c'est parce que vous êtes dans un milieu chrétien qui est semi-païen. »
Ça me fait penser, quelques siècles plus tard, à la mésaventure de Spinoza. Hein, Spinoza qui disait « toute détermination est une négation ». C'est une grande phrase de Spinoza.
Voilà.
Donc, dès qu'on veut déterminer l'être ou l'essence de Dieu, en réalité, on lui retranche quelque chose parce qu'on l'enferme dans une définition, ce qui, par définition, est indéfinissable.
Voilà. Nous avons, d'ailleurs, dans d'autres pensées, on retrouve ça. Le taoïsme dit des choses analogues. Le Tao, si vous pensez le comprendre, c'est plus le Tao. Donc,
voilà.
Le Tao cette pensée
comme ça.
Négative est une des forces de la pensée.
Oui. Le Tao commence comme ça. La voix qui est une voix n'est pas la voix.
Voilà. Hein. La voix qui est une voix n'est pas la voix.
Eh bien, écoutez, comprenne qui pourra. Un dernier point que je voudrais qu'on aborde, mais bon, un peu rapidement peut-être. Vous dites également que dans le fanatisme, il y a encore une structure mentale fondamentale à aller exhumer, qui est le fantasme de l'origine, c'est-à-dire quelque chose de très oedipien hein, en termes psychanalytiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il y a ce fantasme de l'origine et un rapport probablement à la mère,
voilà. Hein,
qui n'est pas réglé?
Si vous voulez, ça c'est la ligne, le point d'horizon de ma réflexion. Au préalable, j'avais donc étudié les mouvements messianistes, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Il n'y a pas trop de mouvements messianistes dans l'islam, encore que, peut-être dans le chiisme, avec la notion de Mehdi, etc. tous ces courants. Il y a eu des mouvements messianistes qui ont cru qu'ils étaient, que le Messie était là. On a eu ça en Allemagne, au temps de Thomas Münzer, au temps de l'aventure de la ville de Münster, etc. Et à chaque fois, dans le monde juif, on a eu un grand fou qui s'appelait Shabtai Tzvi, qui a entraîné derrière lui la totalité, depuis les commerçants hollandais si proches de leurs petites affaires, jusqu'aux juifs du Yémen.
Jusqu'à sa conversion à l'islam.
Oui, sa conversion à l'islam, qui d'ailleurs va avoir des effets bénéfiques, puisque semble-t-il, Atatürk descendrait de cette secte. Ça, c'est une autre histoire. Bref, quand j'ai étudié ces mouvements, j'ai vu à chaque fois le débridement de l'activité sexuelle, la pratique de l'inceste. Donc, en bon freudien, n'est-ce pas, nous, au fond, le noyau dur de notre doctrine, c'est que l'objet d'amour par excellence, c'est la mère. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Le premier objet de votre amour, c'est votre mère. Votre mère, la mienne, celle de tout être humain. C'est elle qui nous a portés, sans laquelle nous ne serions pas vivants.
Tu aimeras ta mère comme toi-même.
Plus que toi-même. On est prêt à mourir pour sa mère. La mère patrie, n'est-ce pas ? On est prêt à mourir pour la mère patrie. Enfin, moi, connaissant, vivant dans le milieu musulman, très souvent, je suis né, j'ai grandi et je continue à fréquenter. Je vous dis, je suis tunisien et mon osmose avec la Tunisie est très importante. On dit la mère juive, mais la mère musulmane, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Donc, j'ai eu l'impression que la ligne d'horizon, au fond, le désir suprême du fanatique, c'est pas tellement les 40 vierges qu'on lui promet, mais auxquelles il ne doit pas croire. C'est la question de sa mère. Sauver sa mère. Sa mère est humiliée. Sa mère a été avilie. Où est l'Andalousie merveilleuse? Où sont les grands penseurs d'Ouzbékistan qui ont inventé l'algèbre, comme il s'appelait Al-Khorezmi, ce grand monsieur dont la pensée mathématique...
Voilà. Donc, blessure dans la Oumma.
Hein. La blessure dans la Oumma, l'éclatement de la Oumma, ce corps morcelé. Pourquoi est-ce que le monde arabo-musulman souffre alors que le monde musulman pur ne souffre pas? Il y aurait une thèse à définir là-dessus, j'en ai une d'ailleurs à l'occasion.
Je vous réinviterai sans faute et avec grand plaisir, Gérard Haddad. Je rappelle le titre de votre livre, « Dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme ». Merci beaucoup d'être...
Merci, j'étais ravi de vous rencontrer.
Eh bien, moi aussi, c'était partagé. Et après cette exaltation du dialogue philosophique, psychanalytique, nous allons aller vers l'exaltation de l'écoute de Sohab Fakir, le chant à la gloire du plus grand poète du Sindh, Shah Abdul Latif.
Allah
कभी कभार सबका पसे फिरी हलो हलो कात तड़े हो
On l'a dit, Sohrab Fakir chante à la gloire de Shah Abdul Latif, hein, ce grand saint soufi du XVIIIe siècle, du Sindh, donc du sud du Pakistan. Mais il a aussi repris, et c'est d'ailleurs la tradition du genre musical auquel il appartient, il a aussi repris un certain nombre de légendes populaires qui expriment de façon très simple un certain nombre de grands thèmes universels, notamment le thème de l'amour. Alors par exemple, il y a un chant classique qui est repris par Sohrab Fakir, c'est l'histoire de Sasui et Pounoun. Sasui qui est une jeune femme qui a été adoptée par un blanchisseur. Alors adoptée par un blanchisseur, ça veut dire que elle avait un statut social assez inférieur, et évidemment elle a rencontré le prince, hein, un prince qui chevauchait par là, un prince balouche qui s'appelle Pounoun. On est à Bambor, là, sur la rive de l'Indus. Évidemment, le prince tombe amoureux d'elle. Évidemment, la famille est furieuse à cause de cette mésalliance. Et la famille du jeune homme, hein, du prince, le fait enlever en le droguant, etc., pour l'arracher à l'emprise de cette séductrice. Et à ce moment-là, s'assuit, la jeune femme est folle de désespoir, elle se lance à sa recherche, elle arrive dans une oasis. Alors évidemment, elle se lance à sa recherche, on peut y voir, et c'est pour cela que ces chants avaient toujours une connotation mystique, on peut y voir une métaphore de l'âme qui s'élance pleine d'amour à la recherche du vrai, à la recherche du divin. Elle arrive dans une oasis, et là elle est menacée d'être séduite par un berger, donc il y a une intervention divine, et le sol l'engloutit, et quelque temps après, Pounoun, le jeune homme cette fois-ci, arrive dans l'oasis, et à son tour, le sol l'engloutit, et ils vont se retrouver quelque part, dans un intermonde, dans un autre monde, derrière ou en dessous de ce sol qui les a engloutis. Avec le psychanalyste Gérard Haddad, aujourd'hui, on a parlé du fanatisme et des ressorts du fanatisme, et notamment d'un ressort du fanatisme qui est la prétention de détenir la vérité. C'est une prétention, c'est une conviction de détenir la vérité qu'on retrouve souvent du côté du religieux et du côté de la religion. Il y a quelque chose de presque compulsif, de presque inévitable pour les fidèles ou les adeptes d'une religion à considérer que leur religion dit la vérité, que leur religion est la meilleure des religions et qu'elle a une supériorité par rapport aux autres. Eh bien, aujourd'hui, la phrase sur laquelle je voudrais vous faire réfléchir est une phrase qui va évidemment à l'encontre de cette conviction, de ce préjugé que la vérité serait le monopole de telle religion au détriment des autres. Cette phrase, on la doit à un orientaliste très connu qui s'appelle René Guénon. René Guénon qui était un spécialiste du soufisme, qui était un spécialiste de l'islam, un spécialiste de l'hindouisme et du symbolisme également. Il est mort en 1951 au Caire. Il s'était converti à l'islam. Il a vécu toute une partie de sa vie sous le nom de Cheikh Abdelwahid Yahya. C'était son nom musulman. Et dans l'un de ses livres, qui a pour titre « Aperçu sur l'initiation », René Guénon écrit la chose suivante. Il dit « Les religions, les formes traditionnelles, peuvent être comparées à des voies qui conduisent toutes à un même but. Elles sont, dit-il, des expressions de la vérité une, des expressions dont il est tout aussi légitime de se servir, suivant qu'il l'est de parler en différentes langues, pour se faire comprendre de ceux à qui l'on s'adresse. Voilà, alors ce que nous dit René Guénon ici, c'est que les religions sont des aspects de la vérité, sont des voies vers la vérité, ou en tout cas vers une vérité. Elles sont des voies vers une vérité, et il n'y a pas de supériorité de l'une sur l'autre, puisqu'elles conduisent toutes au même but, elles font toutes signe dans la même direction, mais elles sont comme les rayons d'une roue qui mènerait à un centre qui serait justement cette vérité déposée quelque part dans l'univers ou déposée quelque part dans le cœur de l'homme. Et René Guénon dit que celui qui voit l'unité de but de ces religions, celui qui voit l'unité de but de ces formes, c'est-à-dire celui qui serait arrivé à cet état idéal de contemplation du secret de l'univers, eh bien celui-ci est comparable, écrit René Guénon, à un homme qui, se tenant au sommet d'une montagne, en voit également, et sans avoir à se déplacer, les différents versants, tandis que celui qui gravit la même montagne n'en voit que la partie la plus proche de lui. Alors là, on a un symbolisme qui est intéressant. Les religions, les différentes religions, seraient comparables à des sentiers, à plusieurs sentiers disposés à flanc de montagne, hein, et qui courraient tout au long de la montagne jusqu'à son sommet. Et aussi longtemps que l'individu n'est pas parvenu au sommet de la montagne, hein, c'est-à-dire justement au but, au terme de la vie religieuse, eh bien, inévitablement, presque, il a le sentiment que le sentier sur lequel il est le seul sentier qui mène au but et qui mène jusqu'au but. Donc, il a le sentiment que le sentier sur lequel il est le meilleur et peut-être même le seul. Et c'est seulement au moment où, de façon idéale, il arriverait au sommet de la montagne qu'il se rendrait compte, eh bien, que tous les sentiers y mènent et qu'il y a une multitude de façons, donc, de s'approcher, si ce n'est d'y arriver, de s'approcher du secret de l'univers. Voilà. Donc René Guénon nous dit que les adeptes des religions, aussi longtemps qu'ils se figurent que leur chemin est le seul ou que leur chemin est le meilleur, témoignent simplement de leur propre ignorance et du fait qu'ils sont simplement en train de cheminer quelque part sur la montagne de la vérité. Tous les chemins mènent peut-être à la vérité et en tout cas à Rome. Culture d'Islam, c'est fini pour aujourd'hui. On va laisser la place à Louise Touré pour la rue des écoles. Et je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette émission, c'est-à-dire Éric Boisset à la prise de son, Franck Lilin à la réalisation et bien sûr Dominique Compétissa, l'attaché de production de Culture d'Islam. À la semaine prochaine. Thank you.